7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Il est 8h44, merci d'être avec nous. Dans 10 minutes, nous aurons une analyse avec Thaïs Descuffon qui reviendra sur ce qui lui avait été reproché. Mais tout de suite, la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors Alexandre, comment allez-vous?
Eh bien, beaucoup mieux depuis quelques minutes. Pour tout vous dire, chers auditeurs, depuis quelques jours, nous avons des stagiaires à Radio Courtoisie. Alors, vous avez déjà vu Alice Meunier, qui a un pseudo d'ailleurs, hein, puisque son vrai nom c'est Margaret Thatcher. Et puis, deux autres personnes qui sont arrivées cette semaine, et il n'y a pas à dire, c'est vraiment pratique les stagiaires. Vous savez, quand on est en colère parfois, on ne sait pas vraiment que faire, ni vers qui se tourner, mais après tout, une tringle à rideau et deux stagiaires de 15 ans qui hurlent au secours quand on arrête de les frapper, c'est quand même vachement reposant.
Eh bien, je suis bien d'accord avec vous, j'ai fait pareil hier. Alors, quid de l'actualité?
Oh, mais l'actualité, vous savez, elle m'ennuie beaucoup, l'actualité, ces temps-ci. Bon, alors, il y a quoi? Bah, il y a le livre de Nicolas Sarkozy qui a atteint les 270 000 exemplaires et qui est traduit en bulgare et en albanais. Puis sinon, Raphaël Glucksmann a fait ça.
Vive la République! Et surtout, vive! Allez, tous ensemble! Vive la France!
Projet!
Ouais, Pécret, c'est super. Et puis bon, alors, il y a Bali Bagayoko qui a fait ça.
Aujourd'hui, vous voyez, ce qui me marque le plus, c'est que c'est difficile de vivre en France quand on est musulman. C'est difficile de vivre en France quand on est juif. C'est difficile de vivre en France quand on n'est pas blanc de peau. C'est difficile de vivre en France quand on porte pas le prénom du calendrier grégorien.
Je suis blanc de peau. Ah non, mais pardon, tout ça, c'est pas Bali Bagayoko, c'était Xavier Bertrand, le gros nul. Non, mais alors je vais vous dire, il me reste plus que deux chroniques dans cette année. Donc tout ce que je veux caser là dans cette avant-derrière chronique, c'est d'abord une histoire. L'histoire d'un homme qui a traversé les âges, à la vie pourtant méconnue, et cet homme, c'est vous, Richard.
Oh, misère.
Eh oui, comme vous dites. Bon, alors, étant donné que vous préférez écrire des livres comme Parisien en exil aux éditions de La Mouette de Minerve à 11,90€, ou De vrais gentlemen aux éditions Salvatore à 16€, au lieu de composer vos mémoires, eh ben je m'en suis chargé pour vous. Non, ne me remerciez pas. Si l'historiographie est une discipline passionnante, moi, je m'en tape. J'ai donc pris à peu près tout ce qui existait, incluant mythes et légendes, je l'ai arrangé à ma sauce, mais enfin, c'est à peu près vrai dans les grandes lignes. Alors, commençons. On ne sait pas exactement quand est né Richard de Sèze.
Ah bah si, quand même, le 1er janvier 65.
Non, mais Richard, je vous en prie, l'histoire est suffisamment longue comme ça, alors ne m'interrompez pas. Je disais donc... Les sources varient, mais on estime la naissance de Richard à 421 après Jésus-Christ dans la ville de Vindunum, entre Valle Guidonensis et Autricum, à quelques encablures de Sabolium, à la latitude de 48°0018 nord et la longitude 0°12.00 est. Fils d'une famille aristocratique franque, sa naissance est vue comme un miracle. Il serait en effet tombé du ciel comme s'il avait des ailes, il apportait un air de liberté. Ainsi que l'a chanté plus tard Jean-Pax Méfray. Alors, comme le rapporte Eudes de Reims, célèbre chroniqueur de la Gaule du 5e siècle, on retrouve ensuite la trace de Richard de Sèze lors de la bataille de Tolbiac, durant laquelle Clovis s'oppose aux Alamans. Alors que les hérétiques ariens sont sur le point de l'emporter, notre sémillant directeur de la rédaction aurait fendu la terre en deux à l'aide d'un trusquin, objet de son invention qui servira plus tard d'outil de traçage opérant par translation sur une surface d'appui de référence. Durant cette bataille, donc, Richard de Sèze trace la ligne entre l'Europe et la civilisation, créant le fleuve du Rhin. Le chroniqueur Eudes de Reims ne donne guère plus d'indications sur la jeunesse de Richard de Sèze. De fait, ce dernier l'aurait massacré à coups de vase sur la tête, l'accusant d'avoir dérobé sa francisque lors d'un pillage. Il aurait ensuite raturé un papyrus pour attribuer ce déchaînement incontrôlé de violence sur le roi des Francs, un certain Clovis. Mais progressons dans l'histoire de Richard de Sèze. Après avoir réarmé démographiquement tout le pays grâce à un effort personnel... Merci. Il s'attelle à ce qui deviendra l'œuvre principale de sa vie, la haine. Il se retire donc plusieurs siècles dans une hutte perdue au milieu de la forêt de Brocéliande, provoquant des noyades en jetant une épée dans un lac, entraînant des chevaliers à chercher une coupe imaginaire durant des années à travers la Bretagne, et fomentant des complots à travers toute l'Europe pour faire démonstration de sa toute-puissance. On estime ainsi que l'Europe aurait pu atteindre la super-intelligence artificielle en 1621 si Richard XVI ne s'était pas échiné à la diviser en inventant l'arbalète, le trébuchet, l'hérésie cathare, les vikings et le poison qui tue. Mais tout ceci ne relève que de l'amusement et en 1066, Richard XVI se pique de sortir de sa hutte maléfique dans le but de commettre un acte irréparable sur lequel même son cœur de pierre éprouvera des remords, la création de l'Angleterre. À ce sujet, voici ce qu'il en disait dans un entretien donné au Mercure de France en 1734. On écoute.
J'ai commis parfois une énorme erreur. Et en fait, qu'est-ce une erreur en politique ? Et quand je récapitule, je n'ai qu'un sentiment, c'est un immense regret.
Voilà, donc tel le docteur Frankenstein, dont il a inspiré la légende d'ailleurs, Richard XVI, se rend compte de son erreur et tentera depuis ce jour de mettre en place un génocide contre ce peuple.
Je proteste.
On retrouve la trace de Richard XVI en 1345 dans une chronique de Michel Pingouin qui le présente comme le président de l'Association de défense des animaux liminaires. En 1346, un an plus tard, notre aimable présentateur de la matinale est chassé de la ville de Paris par ordre du roi Philippe VI à l'apparition de la peste noire qui décimera environ 40% de l'Europe. De fait, l'action de Richard XVI aurait permis d'augmenter de 220% la population de rats dans le bassin parisien. Un engagement qualifié de à tout le moins contre-productif par l'historien Michel Pingouin qui mourra l'année suivante de la peste bubonique après avoir été mordu par Richard XVI. Mais c'est à mesure que l'historiographie progresse que la trace de Richard devient de plus en plus difficile à suivre. On le retrouve tantôt organisateur du bûcher de l'évêque Cochon, tantôt rendant fou le roi VI d'Angleterre, ce qui provoquera la célèbre guerre des roses, tantôt à la tête d'un sous-marin coulant des galions britanniques. Devenu pape sous le nom de Clément VII, il excommunie Henri VIII. Enfin bref, je vous épargne le détail, sautons quelques siècles en avant. Au XXe siècle, Richard XVI devient professeur de peinture. Il devient l'un des critiques d'art les plus incisifs du début du XXe siècle, défenseur passionné du fauvisme, puis du cubisme. Il publia en 1908 « La Révolution des couleurs », ouvrage qui révéla au grand public Groulolo et Pithivière. Il organisa les premières expositions des sections d'or en 1912 et théorisa la déconstruction de la forme, vous nous en parlerez sans doute un jour, comme nouvel horizon spirituel. Ses chroniques dans la Revue Blanche et le Petit XXe imposèrent une vision radicale. L'art devait briser le miroir du réel pour atteindre l'essence pure, c'est-à-dire le sans-plomb 95. Mais le zénith et le crépuscule de sa carrière arrivent dans les années 1907 et 1908 où, devenu professeur émérite à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, il prend la décision de rejeter un jeune peintre moustachu autrichien contre l'avis de tout le jury. Les conséquences, on le sait, furent dramatiques. Encore aujourd'hui, Richard XVI est le dernier homme visé par une enquête du tribunal de Nuremberg pour incitation indirecte au crime contre l'humanité. Cette accusation n'est pas sans lien avec un événement daté du 5 juin 1944. Quittant la résistance pour rentrer dans la collaboration, il déclare, je cite, « De toute façon, c'est fichu, les Allemands sont trop forts, c'est décidé, je pars en vacances à Sigmaringen. » C'est d'ailleurs là que vous rencontrez Franck de la Technique, que vous connaissez bien, chers auditeurs. Ce dernier quittait en effet son travail à Radio Paris pour une promotion à la Volksradio, dont la diffusion sera interrompue au cours des bombardements de Berlin. Inquiété après la guerre, Richard XVI se réfugie en Indochine où il pense pouvoir couler une retraite tranquille, mais se fait déloger peu de temps après par la guerre éponyme. Agacé, il brûle un quart de la jungle vietnamienne avec une simple torche. De retour au pays, il s'installe à Amiens où il rencontre Françoise Noguès, avec qui il a un fils illégitime nommé Emmanuel, qui prendra le nom de son père adoptif, Jean-Michel Macron. Fondateur de 7 dissidences de l'Action française depuis 1945, il rejoint Radio Courtoisie en 2025, là où son passé n'inquiète personne parce que tout le monde a fait pire. La preuve par Maëlys Clozel qui se promet à une carrière du même acabit.
Alexandre, dites-moi quand ça s'arrête par pitié.
Alors, je voudrais quand même conclure par quelques anecdotes. Tout d'abord, saviez-vous, chers auditeurs, que Richard XVI a obtenu une exemption papale dans la vente d'esclaves, ce qui l'autorise à en posséder encore aujourd'hui 711 Ivoiriens et autres Bantous qui travaillent notamment à la confection de délicieuses confitures de Mirabelle et dans 400 hectares que notre cher Richard possède dans le Périgord. Je continue. Alors, incroyable mais vrai, le plus gros panda du monde ne vit pas en Chine, mais dans l'appartement de Richard XVI. À appelé Ching Chong, il lui a été offert des mains de Deng Xiaoping en personne suite à un don de 7000 pelles ayant servi à enterrer vivants les nombreux opposants à la dictature communiste. L'ursi des mignons a néanmoins déposé plainte pour racisme le mois dernier, fatigué que Richard répète constamment à ses invités qu'il était, je cite, « super fort en mathématiques » et qu'il avait, je cite encore, « de petits pieds pour un panda ». Autre information, en 2011, Richard XVI a déposé à l'INPI le mot Emmanuel Macron, ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un prononce le nom de notre président en public, il doit lui verser 25% de royalties. On comprend mieux pourquoi ce sujet est si récurrent dans ses chroniques.
Et à quel titre comptez-vous donner à tout ça ?
Bah écoutez, j'en ai deux en tête pour lesquels je parviens pas à trancher. J'ai pensé d'abord à un cavalier quittait la ville au crépuscule par la porte de l'Est qui n'était plus gardée. Mais le problème, c'est déjà que vous avez une profonde haine de la race équidée, ce qui vous a notamment poussé en 1377, je le rappelle, à massacrer à la hache l'intégralité de la cavalerie mongole, provoquant ainsi la chute d'un empire séculaire. Le deuxième problème, c'est que ce titre n'a aucun rapport avec votre vie et que vous n'avez pas tant d'affection que ça pour Raspail. Alors j'ai opté pour un titre qui m'a semblé plus concis, plus efficace, plus en lien avec votre vie tumultueuse et engagée. Ce titre n'a visiblement en plus pas encore été pris. Le livre s'appellerait donc « Mes combats ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Remarquable. Merci beaucoup, Alexandre. Je suis tellement, tellement heureux de, que voilà, tout ce que j'ai essayé de cacher si longtemps soit enfin exposé au grand jour.
Bah écoutez, c'est un honneur.
Bravo pour
moi.
Votre flair. Merci. Bravo pour votre travail de mythographe. Ouais.
D'historien.
Oui, c'est ça. Oui. Mais spécialiste des mythes.
Oui. Mais vous êtes une légende, Richard. Merci beaucoup.
Merci, Alexandre. Et tout de suite, nous allons revenir avec Thaïs Descuffon sur ce qui lui est arrivé. Alexandre de Galzin vous l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas été condamnée à de la prison ferme, même si c'était ce qui avait été requis contre elle. Elle a été condamnée à une amende, elle fait appel. Nous évoquions avec elle cette histoire invraisemblable de dire la vérité et de se faire condamner.
Ligne droite, l'analyse.
Soit Thaïs Descuffon. Bonjour Thaïs Descuffon.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors, si je vous reçois, c'est parce que vous avez enfin reçu l'assurance que la procureure a requis contre vous 4 mois de prison ferme pour un discours de haine. Et donc le jugement est tombé. Comment va-t-on raisonner ce jugement qui paraît aberrant ? Rappelons d'abord les faits. Donc en 2023, lors d'une séquence télé sur BFM TV, alors que Claire Geronimi vient de confier qu'elle a été violée par un OQTF centrafricain, BFM TV, qui vous connaît parce que vous avez été porte-parole de Génération Identitaire, vous demande de venir et vous dites à l'antenne que les ennemis ne sont pas les hommes, comme le prétend un expert, en fait que ce sont des hommes bien particuliers, et notamment, étant donné la surreprésentation des étrangers dans les prisons françaises et la surreprésentation des étrangers par rapport à toutes les agressions sexuelles que subissent les femmes, et bien que ce ne sont pas les hommes en général, mais un type d'hommes bien particuliers. Donc, vous dites que ce sont les immigrés, les Arabes, etc. Et ça passe sur le moment, évidemment, les gens hurlent, et la DILCRA porte tout de suite plainte contre vous. Donc, la DILCRA, qu'est-ce que c'est exactement ?
Eh bien, c'est une association fortement subventionnée qui lutte contre le racisme, l'homophobie, enfin la haine anti-LGBT et l'antisémitisme. Et donc, la DILCRA s'est immédiatement portée contre moi. Elle m'a traînée en justice pour discours de haine. Car, je cite, j'avais dit que le principal danger pour la sécurité pour les femmes en France était les hommes immigrés africains, noirs et arabes. La procureure, lorsque j'ai comparu, elle a requis contre moi effectivement 4 mois de prison ferme. Le jugement n'a pas été encore rendu. À vrai dire, là, c'est une question de minutes avant que mon avocat m'appelle, puisque c'est cet après-midi que je dois recevoir la décision. Les juges se prononceront pour me condamner ou pas à cette peine de prison complètement délirante. Je ne suis pas une délinquante ni une criminelle. Et c'est les délinquants et les criminels, ce sont ceux qui violent les jeunes femmes, hein, comme Claire Geronimi. ou même sur ce plateau, je racontais que moi-même, j'avais fait l'objet d'une agression par un migrant tunisien. Ce qui est fou, c'est qu'on fait taire les victimes, mais on n'enferme pas les coupables.
Je tiens à repréciser que la DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Autrement dit, c'est vraiment une officine gouvernementale. C'est pas juste une association subventionnée. C'est vraiment l'État qui vous attaque et qui a jugé qu'il fallait vous condamner. Dans cette affaire, on l'a un peu rappelé tout à l'heure, voilà, Claire Jérôme Mini venait de se faire violer et vous-même, vous aviez eu une agression quelques mois auparavant. Donc, effectivement, par un migrant tunisien qui est toujours en liberté, que la police n'a pas su retrouver. Évidemment, c'est beaucoup plus facile pour la DILCRA d'attaquer Thaïs Descuffon qui a des papiers, qui a une identité, que d'attaquer quelqu'un qui n'en a pas. Et donc, la DILCRA choisit évidemment soigneusement les victimes qu'elle peut attaquer. Enfin, je dis attaquer une victime parce que voilà, vous avez été vraiment victime de ce migrant tunisien. Racontez-nous un tout petit peu les faits qui permettent de comprendre aussi l'émotion dans laquelle vous étiez au moment où vous avez répondu à cet interlocuteur sur le plateau de BFM TV.
Oui, tout à fait. C'était à peine un an avant donc le viol de Claire. J'étais en train de rentrer de la salle de sport chez moi, dans le premier arrondissement de Lyon, et je ne me suis pas rendu compte que j'étais suivie, puisque j'avais des écouteurs. Donc j'écoutais de la musique comme la plupart des jeunes de mon âge, ce que je ne fais plus d'ailleurs depuis, hein, je ne marche plus dans la rue avec des écouteurs. Il était 11h du matin, donc c'était vraiment en pleine journée, et je rentre chez moi, et alors c'est un petit peu difficile de représenter ça, mais en fait la porte de chez moi donnait directement sur la rue. En fait, on ouvre la porte, on tombe dans le salon. C'était un rez-de-chaussée dans un vieil immeuble lyonnais, dans une rue qui n'était pas passante du tout. Et donc, en fait, je rentre dans mon appartement et quelqu'un se faufile derrière moi, referme la porte, me prend mon téléphone. Je suis dans un état un peu de sidération de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, je me retrouve nez à nez avec un homme d'1m90 qui parle très approximativement français et qui me demande de ne pas appeler la police, déjà, et surtout de l'héberger pendant 10 minutes, il me dit, parce qu'il serait poursuivi. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était, ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'était la police? Je ne sais pas. Et donc, en fait, je me retrouve coincée chez moi, sans pouvoir appeler à l'aide. Je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas crier, ce n'est pas une rue qui est passante, avec cet homme que je ne connais pas, et qui, pendant 20-25 minutes, restera chez moi sans chercher à me faire quoi que ce soit. Je lui ai tenu la conversation et en lui rappelant régulièrement « Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez pas partir ?»« Ah, je peux rester un peu plus longtemps, je peux rester un peu plus longtemps. » Je lui ai même servi de l'eau, j'ai lavé le verre sous ses yeux parce qu'il voulait pas laisser d'empreinte, m'a-t-il dit. Ce qui m'a aussi fait me questionner sur les intentions de cet homme, parce que bon, il devait peut-être penser déjà à me faire du mal pour avoir peur de laisser mes empreintes, je ne sais pas. Mais le fait est qu'au bout de 25 minutes, je parviens enfin à lui faire dire qu'il va s'en aller. Il se lève pour partir, je me dirige vers la porte, et c'est au moment de partir qu'il me demande d'abord de l'embrasser, ce que je n'ai pas envie de faire, comme je lui dis. Je lui dis « Écoutez, ça me gêne, je veux pas. » Donc je lui dis « Écoutez, juste sur la joue. » Bon, c'était instinct de survie qui parle. Donc je l'embrasse sur la joue, et là, il m'attrape les poignets, il me fait asseoir sur un pouf derrière moi et me demande de lui pratiquer une fellation. Je suis complètement
sidérée.
Sidérée, paniquée, en larmes, hein, je tremble, je le supplie de me laisser tranquille. Je lui dis: monsieur, je fais tout ce que vous m'avez demandé, je vous ai hébergé, je vous ai servi de l'eau, j'ai été gentille avec vous, je vous en prie, je vous en supplie, allez-vous-en. Non, je veux pas, quoi. Et il insiste, mais il finit par me lâcher, et je crois que j'ai dû lui faire pitié, donc je n'ai pas d'autre explication. Il a ouvert la porte, il est parti, je me suis jetée sur la porte, je l'ai fermée à double tour, et comme il avait laissé le téléphone sur le canapé, j'ai pu appeler tout de suite ma colocataire qui est arrivée, j'ai appelé la police, j'ai déposé plainte, et voilà dans le déroulé des faits ce qu'il s'est passé.
Voilà. Donc, vous déposez plainte, et si je ne m'abuse, le policier vous explique que le nombre de personnes qui déposent plainte pour ce genre d'agression est si élevé, qu'il cite un chiffre de quelques milliers, qu'il y a évidemment peu de chances qu'on retrouve l'agresseur, et vous-même, vous avez senti que le peu de chance venait aussi du peu d'empressement, vraisemblablement, de la police à le chercher.
Oui, sans vouloir, peut-être on me qualifierait de complotiste, mais... Déjà, je suis passée deux jours après sur touche pas à mon poste pour parler de cette agression, puisque j'en avais fait des posts sur les réseaux sociaux et ça avait créé une polémique, puisque d'un côté, il y avait des personnes qui m'accusaient de mentir, d'inventer une agression parce que je serais une personne qui serait prétendument raciste, déjà engagée sur des questions migratoires et donc que j'inventerais une agression pour justifier mes propos. Peut-être qu'il faut plutôt raisonner à l'envers, c'est-à-dire que mes propos sont justes, que je dénonce est réel, et donc il est probable que ce genre de choses m'arrive à moi aussi, et ça a été le cas. Donc il y a eu cet aspect-là de la polémique, et des gens qui aussi simplement disaient « D'accord, c'est triste ce qui lui arrive, mais pourquoi cela nécessite-t-il forcément un discours politique derrière qui est que l'immigration cause de l'insécurité, pourquoi décrit-elle son agresseur, ce n'est pas nécessaire, les coupables ce sont les hommes, en général ». Donc du coup je m'en étais justifiée sur un plateau de télévision et je pense que l'affaire ayant pris une certaine ampleur médiatique, en tout cas j'ai été très peu contactée par les policiers pour la suite de l'affaire et à vrai dire on ne m'a même pas informée que c'était classé sans suite. Il a fallu que je fasse les démarches auprès de mon avocat pour qu'il aille récupérer le dossier. J'ai également bataillé pour récupérer la photo de la caméra de surveillance où on observe mon agresseur quitter mon domicile au coin de la rue. Et donc oui, c'est vrai que je m'interroge un peu sur le manque de moyens déployés. Certes, je pense aussi que le fait que je m'en sois sortie fait que mon affaire était peut-être moins prioritaire qu'une autre, mais je pense aussi qu'il était mieux de ne pas me donner raison en retrouvant cet individu. Et comme vous l'avez bien dit, les commissariats de police sont également surchargés. Le commissaire qui a récupéré ma plainte m'a dit que le type de profil que je décrivais, il devait y en avoir plus de 6 000 rien que dans mon arrondissement et qu'il allait falloir que je sois un peu plus précise. Malheureusement, ma description est celle de n'importe quel maghrébin banal, en fait. Donc forcément, ils ne l'ont pas retrouvé, en tout cas, voilà.
Alors, il ne le retrouve pas, bon, vous continuez à vivre avec une belle résilience, comme on dirait aujourd'hui, et l'affaire Jérôminy éclate, donc Jérôminy, violée, elle, sévèrement par un OQTF centrafricain, et vous êtes invité, donc l'expert en face de vous, immédiatement, par rapport à ce que dit Claire Jérôminy, qui n'a pas le bon discours de la bonne victime, et vous-même, donc, dit que ce sont les hommes qui sont coupables, et donc les hommes en général, tous les hommes, le patriarcat, et là, ça vous fait réagir vraiment vivement.
Tout à fait. On débattait déjà depuis plusieurs minutes, et j'étais quelque peu excédée, à la fois parce que je venais de le mentionner sur le plateau. Moi, j'avais beaucoup d'empathie et de compassion pour Claire, car je trouvais que le modus operandi était assez similaire. Mon agresseur s'était faufilé derrière moi, il s'est aussi faufilé derrière elle et il l'a violée dans la cour d'immeuble de son appartement. Donc il y a aussi ce côté traumatisant où c'est jusque dans votre domicile. Donc après, vous déménagez, hein, si vous n'êtes plus très à l'aise. Et donc, voilà, j'étais excédée par rapport à ça, mais aussi on m'avait sorti des énormités. La porte-parole de Oser le féminisme qui était face à moi se défendait de mes positions, enfin, comment dire, était en opposition avec moi en disant par exemple non, mais la France aussi, elle est tout aussi raciste et misogyne. Prenez à l'époque napoléonienne par exemple. Je disais, mais on est où? On est en train vraiment de parler de Napoléon, voilà, et de ce qui pouvait se passer en France il y a 2 siècles. Je pense déjà que ce n'était pas comparable, le climat d'insécurité à celui que les femmes françaises connaissent aujourd'hui. Mais surtout, est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce qu'il faut, selon elle, visiblement, il faut remonter à 2 siècles pour avoir un semblant de sexisme de sexisme à reprocher aux hommes bien français, bien de souche? Donc, je trouvais ça absolument ridicule. Et donc, arrive cet expert, là, ce pseudo-expert invité par BFM TV, qui dit « Vous dites que le problème en France, c'est l'immigration. Non, le problème en France, ce sont les hommes. Enfin, le problème pour les femmes en France, le principal danger pour les femmes en France, pardon, ce sont les hommes. » Et donc là, je le reprends, je dis « Non, ce sont les hommes immigrés africains, noirs et arabes. » Et voilà, c'est cette citation précisément qui me vaut d'être traînée en justice. Et de potentiellement risquer 4 mois de prison ferme, même si honnêtement, vu le niveau de mobilisation que j'ai reçu sur les réseaux sociaux, j'ai bon espoir que qu'il soit un peu intimidé par la proportion que ça a pris.
Et ben, et espérons-le. Cette délégation interministérielle à la lutte, etc., contre le racisme, porte plainte. Elle porte plainte quasi immédiatement, donc en 2023.
Tout à fait. L'extrait de mon passage média est immédiatement relayé sur les réseaux sociaux par divers comptes Twitter qui s'insurgent de ma phrase. Et vraiment, dans la soirée, je vois un tweet disant « La DILCRA saisit la justice contre les propos tenus par Thaïs Escuffon sur BFM TV ».
Alors, donc, la DILCRA saisit la justice. On est en 2026, donc 2023 se passe, 2024, 2025. Comment la plainte a-t-elle été instruite? Comment s'est déroulé, en fait, votre parcours judiciaire?
Eh bien, en fait, pendant 2 ans, donc, je n'ai eu aucune nouvelle en fait, de cette affaire. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question, de me dire « Tiens, où est-ce que ça en est ? J'ai pas de nouvelles. Bon, peut-être que ça va rester lettre morte. » Et puis, je dirais que c'était en janvier 2026, donc, je reçois un coup de fil alors, je ne sais plus comment on s'appelle, bon, en tout cas, un commissariat à Paris, hein, disons, qui me demande de venir pour me remettre ma convocation à comparaître devant le tribunal. Donc je me rends à Paris, je récupère la convocation, je suis convoquée le 8 avril, donc je me présente accompagnée de mon avocat maître Loïc Lerat devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris le 18 avril. Voilà. Et s'ensuit le procès et la réquisition de la procureure. Et maintenant, on est deux mois après. Et j'attends de délibérer.
Alors, et la procureure donc, réclame le 18 avril 2026 4 mois de prison ferme. Comment le justifie-t-elle? Je crois que sur le moment, vous étiez tellement surprise que ce soit de la prison ferme que vous vous demandiez si vous aviez bien entendu la peine qui était proposée par rapport à toutes les autres peines qu'on entend proposer dans d'autres affaires où les victimes paraissent être plus certaines et plus abîmées.
Tout à fait. J'ai été absolument abasourdie quand, alors j'ai fini ma défense, que je me suis justifiée déjà en remettant les choses dans le contexte, en racontant ma propre histoire, en donnant des chiffres, en expliquant que moi j'ai parlé avec le cœur et que certes j'ai déjà fait des passages médias, mais je ne suis pas non plus une professionnelle des passages médias, je ne suis pas une politique qui passe son temps sur des plateaux. Donc voilà, je n'ai pas voulu heurter qui que ce soit. Maintenant, je pense décrire une réalité que vivent beaucoup de Françaises et surtout une réalité qui a brisé tellement de vies que je ne me voyais pas rester silencieuse. Donc voilà, c'est ce que je leur explique. Et une fois que je me rassois, la procureure se lève et elle commence sa diatribe en expliquant que voilà, je tenais un petit discours bien rodé, que c'était gentil de jouer les victimes, mais que je savais très bien ce que je faisais, que j'étais une habituée des médias, que je savais que ça allait me rapporter de l'argent, des partenariats par la suite, et donc que voilà, ma défense ne tenait pas la route. Elle a remis donc en cause ma sincérité d'une part, et de l'autre, elle a qualifié mon histoire, visiblement, ou celle de Claire Géronimi, ou les deux, de pauvres faits, puisqu'elle a dit « Madame se base sur de pauvres faits, sur un pauvre fait pour justifier un discours haineux qui n'a pas sa place dans notre démocratie. » Et donc, je requiers de la prison contre Thaïs Descuffon. Et puis, je me suis tournée vers mon avocat ensuite, et je lui ai demandé de me confirmer alors que quelle peine de prison. Il me dit « Il me semble qu'elle a dit du ferme, mais ça me paraît tellement gros que je vais vérifier après. » Et il a vérifié ensuite. Et donc, je l'ai recontacté quelques jours plus tard et il m'a dit « Je te confirme bien qu'en fait, c'était du ferme, ce qui est fou. » Donc, il a plaidé pour la relaxe totale. Mais bien sûr, puisque je n'ai rien fait de mal, en tout cas à notre sens. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai déjà pris 6 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende pour une action menée avec Génération Identitaire en 2018. Donc, vous voyez, la justice est très lente. Mais voilà. De la prison ferme pour des propos, je n'en suis pas revenue.
C'est vraiment un délit d'opinion dans toute sa splendeur. Voilà. Et surtout, il faut revenir sur les paroles du procureur. on vous reproche d'être une professionnelle des médias parce que vous êtes invitée par les médias, comme si le fait de tenir un discours régulièrement était une circonstance aggravante. On vous reproche de gagner votre vie en étant une personnalité publique, comme là aussi, comme si c'était un métier honteux, en tout cas qui échappait à la logique du procureur. On vous reproche surtout de raconter la vérité et de vous appuyer sur votre propre cas et celui de Claire Gérôminy, comme si c'était des cas exceptionnels de pauvres faits, pour reprendre les propos stupéfiants de la procureure, et que jamais en France, nulle part, il n'y avait d'agression commise par une population extra-française et par des immigrés, clandestins ou non, par des gens sous OQTF, comme si aucun fait divers ne s'était jamais produit de la même sorte.
Ah oui, c'est fou. On dirait que cette procureure n'a jamais entendu parler de l'affaire Lola. Elle n'a pas non plus entendu parler des 250 000 jeunes filles violées en Angleterre par, exploitées dans les grooming gangs pakistanais. Le rapport, justement, alarmant à ce sujet est sorti hier. Peut-être l'avez-vous vu passer. Donc ça, c'est un phénomène qui est répandu non seulement en plus en France, mais partout en Europe où il y a de l'immigration extra-européenne de masse. Donc madame semble découvrir en fait la réalité et des conséquences que provoque cette invasion migratoire que nous subissons et l'importation de milliers d'hommes jeunes qui rentrent par flopée comme ça et célibataires. Forcément, qui n'ont pas nos codes culturels, qui n'ont pas nos codes culturels, une religion, enfin la religion chrétienne qui respecte les femmes, etc. Donc je ne sais pas où vit Madame la procureure, mais certainement pas en France, je crois. Voilà. Ou peut-être confortablement installée dans le 6e arrondissement parisien avec deux digicodes et une porte fermée à triple tour.
Et il y a dans votre discours quand même le fait que les statistiques officielles de l'Union européenne, les statistiques officielles de la France montrent bien, et on en a débattu à 20 reprises ici sur Radio Courtoisie, mais en fait dans tous les médias, dans tous les journaux, que le fait d'expliquer qu'il y a une criminalité liée à l'immigration n'est pas une pure vue de l'esprit. Je voudrais revenir aussi sur un élément, elle vous accuse de gagner de l'argent, en fait fondamentalement depuis... Génération Identitaire et depuis la dissolution de Génération Identitaire, vous êtes exclu du système bancaire, on vous ferme vos comptes, on vous empêche de gagner votre vie sur les comptes sociaux. Donc autrement dit, là aussi, elle a une perception de vos revenus qui est fausse. Non seulement vous avez du mal à exister dans l'univers des réseaux sociaux, mais en plus, le système bancaire vous met systématiquement des bâtons dans les roues pendant plusieurs années.
Oui, complètement. Moi, d'aussi loin que je me souvienne, presque, à partir du moment où j'ai commencé à avoir une exposition médiatique, j'ai vu mes comptes bancaires être successivement fermés. J'ai eu des difficultés à m'inscrire dans des banques, on va dire, classiques, institutionnelles, un peu françaises. Finalement, la seule banque qui a accepté, c'était une banque en ligne dont je ne pourrais pas donner le nom, mais qui ne me permettrait pas de prendre un crédit, par exemple, pour acheter un appartement ou une maison. Moi, j'ai fait le deuil de ça, donc je sais qu'en France, ce ne sera pas possible. Madame a une vision complètement déformée, une perception complètement déformée de ce qu'est la réalité de la vie des activistes de droite identitaire en France. Donc ça fait depuis 2020 que voilà, j'ai mes comptes bancaires suspendus, j'ai également mes comptes des réseaux sociaux qui ont été clôturés à de multiples reprises, et ça aussi, mine de rien, eh bien, c'est pas juste de la visibilité en moins, ce sont aussi des revenus potentiels, c'est des aides que les gens peuvent vous apporter, c'est enfin, tout ça, et puis même c'est du travail qui est à chaque fois perdu, parce que vous accumulez beaucoup d'efforts et d'énergie pour construire une communauté, et puis du jour au lendemain, elle est suspendue. Et moi, en l'occurrence, par exemple, mon compte Instagram a été suspendu pour organisation dangereuse, ce que je pense être directement relié à Génération Identitaire, de toute évidence. Mais voilà, effectivement, on a de la répression de tous les côtés. Et à vrai dire, ce n'est que parce que aujourd'hui, j'ai reçu un soutien phénoménal, parce que j'ai partagé ces difficultés financières que je rencontrais depuis de nombreuses années et dont j'avais un peu honte. J'avais un peu honte de le dire, j'avais un peu honte de demander de l'aide aux gens. J'ai fini par dire, écoutez, voilà la réalité en fait de la situation pour moi depuis de nombreuses années. J'ai vraiment tout essayé, j'ai même essayé pendant un temps d'être un peu discrète sur tous ces sujets d'immigration et d'identité, le temps de trouver un modèle économique viable. Je n'y suis pas parvenue. Donc en fait, maintenant, vous êtes mon dernier espoir parce que sinon, ils auront eu raison de moi et je vais arrêter tout, je vais me taire parce que je ne peux plus continuer comme ça. Et évidemment, il y a aussi le volet d'inemployabilité que vous pouvez avoir quand vous avez 15 articles de presse qui disent que vous êtes une néo-fasciste, une raciste, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai demandé aux gens de l'aide et en fait, j'ai reçu un soutien incroyable sur Patreon, une plateforme que j'ai ouverte d'abonnement en fait pour m'aider et je suis extrêmement reconnaissante aux gens parce qu'en fait je crois que grâce à eux je vais pouvoir être définitivement libre de ton et pouvoir reprendre le combat de plus belle.
Alors voilà, justement, donc cette procédure de la DILCRA à votre encontre, ces réquisitions un peu surprenantes de la part du procureur à votre encontre, on a l'impression que ça ne vous a pas du tout fait peur et que vous êtes dit, soyons libres, disons la vérité, il n'y a pas de raison que la justice me bâillonne.
Bah écoutez, en réalité, je n'ai jamais effectivement eu vraiment peur. C'est simplement de l'usure mentale en fait accumulée sur pas mal d'années avec tout ce que je vous ai décrit, les suspensions de comptes réseaux sociaux à répétition. J'avais à un moment donné, je n'avais ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok. Je n'avais que Telegram et YouTube. Du coup, la chaîne YouTube que j'avais ouverte. Entre-temps, Elon Musk a racheté Twitter, donc ça va mieux. Mais par exemple, tout le groupe Meta, Facebook, Instagram m'a clairement mise sur liste noire. Donc voilà. Et pardon, comme vous disiez, attendez, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire juste avant que
vous aviez décidé de ne pas vous taire.
Oui, pardon. Oui, merci. Donc voilà, en fait, ce n'est pas forcément que j'avais peur de ces procédures. C'est simplement que je sentais l'étau se resserrer, la pression qui devenait de plus en plus difficile à gérer pour moi. Et je me suis dit bon, en fait, maintenant, ça suffit de juste garder les choses pour moi parce que j'ai un peu honte d'en parler aux gens et de demander leur aide. Mais à un moment donné aussi, je me suis dit, ça vous concerne, ça concerne tout le monde de savoir tout ce que le système est capable de mettre en place pour faire taire des personnes comme moi, parce que je ne suis pas la seule. Il y a Jean-Yves Gana aussi que vous recevez régulièrement, qui je crois même est chroniqueur chez vous, mais en tout cas il est régulièrement persécuté par la justice. Il a également eu des problèmes avec ses comptes bancaires. Lui et moi sommes inscrits dans le fichier PEP, je crois, des banques qui parle des personnalités exposées médiatiquement pour opinion politique, etc. Donc voilà, c'est simplement de l'épuisement mental. Et donc j'ai espéré aussi en en parlant que ça fasse bouger ma situation. Même si c'est vrai que le risque peut-être était que en donnant plus d'exposition à mon affaire, les juges n'apprécient pas beaucoup. Mais je pense que c'est plutôt du positif que j'en ai retiré, que ça a créé vraiment une pression. Et donc, je suis plus reconnaissante et même déterminée à être plus motivée que jamais.
Thaïs Escuffon, merci. Nous avons enregistré cet entretien le 18, donc il est diffusé le 19. En début de diffusion, j'expliquais quel avait été le verdict. En cette fin d'entretien et avant que le verdict ne soit connu, je vous souhaite évidemment toutes les chances et bon courage pour continuer le juste combat.
Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu.
Et pour cette année,
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Et maintenant, Jérémy Combe va nous apprendre à bien nous tenir avant que Tuc Duhaldoni ne nous raconte le Valeurs Actuelles de cette semaine.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui, une question d'actualité, comment gérer la transpiration durant l'été ?
Eh bien oui, comme vous le dites Richard, les bonnes manières sont relativement faciles à respecter en février. C'est en plein mois d'août, en juillet, en juin, actuellement, dans un métro bondé, dans une salle de réunion, sans climatisation ou lors d'un cocktail organisé sous une verrière en plein soleil, qu'elles passent leur véritable examen. Car il existe une vérité universelle. Face à la canicule, nous sommes tous égaux. Le PDG du CAC 40, l'étudiant en vacances, l'actrice sur un tapis rouge ou le voisin du quatrième étage finissent tous, tôt ou tard, par connaître le même phénomène. Une chemise qui colle, un front qui brille et cette désagréable sensation d'avoir été transformé en bouteille d'eau minérale. La chaleur est probablement la plus démocratique des expériences humaines. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle nous oblige à faire preuve d'un peu plus de savoir-vivre. Pendant longtemps, pourtant, la société a entretenu une relation complexe avec la transpiration. Nous avons parfois tendance à imaginer que nos ancêtres étaient plus élégants que nous. Les portraits nous montrent des visages impeccables, des perruques parfaitement poudrées et des costumes somptueux. La réalité était souvent un peu différente. À la cour de Louis XIV, les notions d'hygiène n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. On craignait même parfois que l'eau ne soit mauvaise pour la santé. Les bains étaient rares et les parfums jouaient un rôle essentiel. Les grands parfumeurs français ont d'ailleurs prospéré dans ce contexte. Ils n'avaient pas uniquement pour mission de séduire, ils contribuaient parfois à prendre certaines fréquentations plus supportables.
Alors, à quel moment a-t-on donné une place importante à l'hygiène ?
Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'hygiène corporelle devient progressivement une norme sociale. Avec les progrès de la médecine et de l'urbanisme, la propreté n'est pas seulement une affaire personnelle, elle devient une forme de respect envers les autres. Et c'est là, chers amis, toute la subtilité. Transpirer n'est pas impoli, c'est même parfaitement naturel. Personne ne choisit de transpirer. En revanche, faire comme si son comportement n'avait aucune conséquence sur les autres peut devenir un problème. Les bonnes manières ne consistent pas à nier notre condition humaine. Elles consistent à tenir compte du confort de ceux qui nous entourent. La première règle est donc la bienveillance.
Alors combien de fois entend-on des remarques désobligeantes à propos d'une personne qui transpire abondamment ?
C'est injuste, Richard. Vous avez raison de me poser la question. La personne concernée est généralement la première à en souffrir. Les bonnes manières, le bon goût, commencent toujours par une forme de générosité du regard. Autrement dit, évitons d'humilier quelqu'un pour un phénomène physiologiquement parfaitement normal. La seconde règle concerne notre propre responsabilité. Nous ne pouvons pas empêcher notre corps de réagir à la chaleur, mais nous pouvons limiter les désagréments qu'il occasionne. Cela passe par des gestes simples. Choisir des matières naturelles plutôt que certains tissus synthétiques, prévoir un mouchoir, avoir toujours une bouteille d'eau, changer de chemise si nécessaire, utiliser un déodorant, je le dis à qui veut l'entendre. Et surtout comprendre qu'un demi-flacon de parfum n'a jamais remplacé une douche. C'est une illusion qui traverse les siècles avec une remarquable persévérance. Or, contrairement à une idée répandue, le parfum n'est pas conçu pour masquer les odeurs. Il est conçu pour accompagner une personne propre. Le mélange des deux expériences produit rarement le résultat escompté. L'été soulève également une autre question. Celle des salutations. Faut-il faire la bise lorsque tout le monde dégouline de chaleur ? Une question que je vous pose, Richard. La réponse est simple, rien n'est obligatoire. Les bonnes manières ne sont pas un catalogue de contraintes, elles sont l'art de mettre les autres à l'aise. Si une poignée de main, un sourire ou un salut à distance permettent d'éviter un moment inconfortable, ils sont parfaitement acceptables. Je vous épargne cette épreuve par cette chaleur, et souvent beaucoup plus élégant qu'un mouvement de recul paniqué. Le philosophe Montesquieu écrivait « La politesse est une fausse monnaie qui enrichit celui qui la dépense. » En période de canicule, cette monnaie prend une valeur toute particulière. Un sourire, une parole aimable, un peu d'attention et quelques précautions valent souvent davantage que tous les systèmes de climatisation du monde. Car au fond, l'élégance estivale ne consiste pas à rester parfaitement sec. Elle consiste à rester parfaitement courtois et lorsque l'on parvient à conserver sa bonne humeur malgré 40 degrés à l'ombre, on peut considérer que l'on a déjà remporté une belle victoire sur l'été, Richard.
Merci Jérémy, nous garderons cet axiome, l'élégance estivale ne consiste pas à rester parfaitement sec.
Voilà, je l'aime bien aussi, merci.
Ligne droite, la revue de presse.
Et pour cette revue de presse, nous avons le plaisir de recevoir Tugdual Denis. Bonjour.
Bonjour Richard, bonjour à tous vos auditeurs. Cette semaine, dans Valeurs Actuelles, nous publions un grand dossier consacré au football. Je crois que c'est un peu de saison. Et au-delà de l'image de Kylian Mbappé par la une du journal, il y a ce titre et ce message, le revers de la médaille, le revers de la médaille du football. La médaille, c'est évidemment les victoires, que ce soit celle du PSG en Ligue des Champions ou les bons... Ça, c'est pour l'aspect sportif. Oui.
On vous entend d'une manière un peu hachée. Peut-être que le téléphone serait préférable à la vidéo.
Ah.
Voilà, Arnaud vous appelle. Et donc en attendant qu'Arnaud vous appelle, donc on raccroche, on se remet. Donc effectivement, football, le revers de la médaille, c'est un dossier passionnant, comme d'habitude, que Valeurs Actuelles a trouvé. Et à juste titre, évidemment, il est allé chercher dans l'actualité, mais on sent surtout qu'il y a eu une longue enquête auparavant sur la manière dont cette Coupe du Monde de football, en fait, s'organise et surtout s'organise avec un certain nombre de compromissions, un certain nombre de partis pris politiques, un certain nombre d'affaires économiques. Comme d'habitude, voilà, la Coupe du Monde, c'est censé être une fête populaire, mais c'est surtout, en fait, une histoire de gros sous. Alors, Tugdual Denis, donc ce dossier, comment l'avez-vous conçu ?
Écoutez, en fait, on ne voulait pas passer pour des mauvais coucheurs ou des empêcheurs de jouer en rond, si vous pouvez me permettre l'expression. Mais il est établi depuis plusieurs années maintenant que le revers de la médaille des bons résultats que peuvent avoir des clubs français sur le plan européen ou l'équipe nationale sur le plan mondial, c'est que le football est devenu un assez mauvais miroir de la société. Il y a l'aspect du football fric, comme dit Roselyne Bachelot dans une interview qui ponctue ce dossier, mais il y a aussi la question de l'entrisme islamiste dans de nombreux clubs de métropoles françaises, et il y a évidemment les violences qui émaillent à chaque fois des victoires et qui sont censées être des moments de joie. Donc nous avons essayé de réfléchir à quel était le sens de tout ça et pourquoi, particulièrement dans le football, résonnaient les mots MAUX de la société française. C'est quand même un phénomène très français, c'est-à-dire que même dans des pays vous avez, par exemple, de la violence et du hooliganisme, je pense à la Turquie notamment. En revanche, ça ne s'accompagne pas pour autant d'un discours hostile au pays où se déroulent ces événements et ces incidents. C'est-à-dire que personne, à la sortie d'un match de foot du Galatasaray, qui est le club d'Istanbul, ne crie nique la Turquie dans les rues stambouliotes. L'entrée islamiste auquel on assiste et qui a déjà fait l'objet d'un rapport parlementaire en France montre bien à quel point des gens mus par l'idéologie des frères musulmans profitent de ces espaces que sont les clubs de foot amateurs et la docilité entre guillemets de jeunes garçons pas forcément mûrs pour faire le distinguo entre les choses, pour pousser leur agenda idéologique et une forme comment dire de pas d'omerta mais d'acceptation et en tout cas de il n'y a pas assez de publicité, on a estimé autour du fait qu'il fallait s'interroger sur à la fois les causes profondes de la malédiction du football et en même temps sur la manière de résoudre et de surmonter tout cela.
Alors, dans les mots français, évidemment, sont présents dans votre dossier, mais il y a aussi tout l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui une Coupe du Monde, c'est-à-dire en fait une ingénierie financière absolument énorme, les contrats de la FIFA, dire pas donc si tout ce qui n'est pas purement le jeu, mais tout ce qui l'environne et a peut-être tendance à l'étouffer.
Bah exactement, il y a effectivement ce football business. Qui a commencé avec l'arrêt Bosman dans les années 90 et qui a fait que le football était un territoire de jeu de la très mauvaise mondialisation. Et puis il y a effectivement tous les à-côtés du football et notamment par exemple les leçons de morale que distillent ces joueurs de foot très bien payés. Kylian Mbappé, qui est un très bon joueur de football, il n'y a aucun doute là-dessus, a encore eu... des mots, je pense, blessants pour les électeurs du Rassemblement National et de Jordan Bardella en particulier, puisque c'était, il me semble, de lui dont il s'agissait dans les critiques de Kylian Mbappé. Et une fois de plus, au risque de passer pour des gens qui cassent l'ambiance et des mauvais pusheurs, ça nous semblait important en ce début de Coupe du Monde de signifier les problèmes sociétaux, entre guillemets, que relève le football.
Alors, c'est bien sûr, comme dans chaque numéro de Valeurs Actuelles, il n'y a pas que le dossier qui est intéressant. Il y a d'autres articles. Quel est celui que vous choisiriez, quitte à déplaire à l'un de ceux que vous n'auriez pas sélectionné?
Ah, écoutez, je vous renvoie la question. Dites-moi plutôt vous de quel article vous aimeriez que je parle.
Eh ben alors, j'avoue que j'ai une fois de plus trouvé tout à fait aimable la chronique de Laurent Dandrieux. Voilà, cette page que vous lui offrez, où indépendamment de la culture, il porte ce regard sur la société et ses dérives. À chaque fois, ça fait ma joie.
Mais écoutez. C'est vrai que globalement, la chronique de Laurent Dandrieux, je pense, est assez singulière dans la presse française, parce que c'est pas un éditorial politique, c'est pas une chronique de société, c'est je sais pas comment vous dire, une chronique de la vie intérieure, c'est-à-dire qui nous interroge à chaque fois sur presque notre métaphysique, notre manière d'être au monde, et avec évidemment une plume tout à fait remarquable qui est celle de Laurent, et il essaye de saisir, entre guillemets, l'air du temps, et il le fait avec effectivement beaucoup de talent.
Voilà, et bien sûr, toutes les autres...
Je suis content de pouvoir le dire et de faire, comment dire, un zoom, comment dire, en bon français, sur le travail de Laurent, et en l'occurrence, cette semaine, il a travaillé sur la notion un peu d'ethnicisation dans le débat public, où finalement on nous ramène toujours à la couleur de peau, et il explique à quel point c'est une terrible régression.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on célèbre une des résolutions de l'ONU en 2020 qui faisait partie aussi de cette manière de sacraliser la couleur de la peau en reprenant une partie du débat états-unien.
Excusez-moi, mais pour donner une idée de la plume de Laurent à vos auditeurs, je vais citer juste une phrase de sa chronique qui, à mon avis, leur parlera. Il explique « Le vivre ensemble est devenu un chaudron racialiste où bouillent les affrontements identitaires ».
Parfait. Eh bien, merci Laurent, merci Tuc Dual, et à la semaine prochaine.
Merci Richard.
Zone libre.
Et pour la zone libre, je reçois à nouveau Alexandre de Gazin et Louis Rigaudière. Alexandre, merci encore pour cette chronique qui me permet d'exprimer qu'effectivement, je suis âgé de 1600 ans et malgré tout, ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas.
Effectivement, c'était un pari hasardeux de ma part.
Ça ne se voit pas. Non, mais écoutez, ce qui est très appréciable, c'est votre capacité à traverser les âges tout en restant vous-même entre modernité et tradition.
Tout à fait.
Alors non, mais moi, j'aurais une question pour vous, vous deux d'ailleurs. Voilà, c'est le titre d'un article de West France. Pourquoi ce petit pingouin a-t-il été aperçu sur une plage de Vendée?
Alors, c'est une histoire récente qui s'est produite.
Oui, mais c'est la question qui est posée dans l'article. C'est pas un petit pingouin a été retrouvé sur une plage de Vendée. Ce n'est pas information. On a retrouvé un petit pingouin. Non. C'est pourquoi ce petit pingouin a-t-il été aperçu?
Ce petit pingouin,
oui,
précisément.
Oui. Pourquoi celui-là?
Il a été amené par un vaisseau fantôme.
Non. C'est un guillemot de Troyes. Espèce que vous connaissez bien, Richard, étant donné que
j'en ai dévoré des dizaines.
C'est ça.
On est bien d'accord, on parle de pingouin et pas de manchot.
On parle de pingouin, et en fait, tout simplement, avec son costume noir et blanc et sa manière de se tenir debout, le Guillemot de Troyes ressemble de loin à un petit pingouin. C'est normal. S'en est un.
Ah, exactement.
Merci, West France. De temps en temps, les gens nous disent, vous faites du journalisme d'opinion, il y a des vrais journalistes comme à West France. À chaque fois, ce sont des leçons de journalisme incroyables.
S'ils n'ont pas le Pulitzer avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut.
Voilà. ils ont lancé une chaîne de télévision là récemment, qui a atteint d'ailleurs les 0,1% d'audience.
Oui, c'est ça. Je crois qu'ils sont à quand même 4000 auditeurs par émission.
Vous gonflez un peu, je pense, mais c'est à peu près ça, ouais.
Ne voyez absolument pas dans nos commentaires une quelconque jalousie professionnelle. Non, c'est un hommage que nous rendons à la qualité éditoriale de West France. Voilà. Mais merci beaucoup, Alexandre. Et vous, Louis Rigaudière?
Alors, moi, écoutez, en toute honnêteté, j'avais pas grand chose à dire. Je suis juste venu parce que le studio est climatisé.
Vous non plus.
Fait chaud et j'en peux plus, je respire plus. La canicule est insupportable. Et là, au moins, je prends du bon temps, je prends mon pied avec cette canicule qui marche parfaitement. Donc, c'est quand même super, la technologie. Non, plus sérieusement, évidemment, la canicule est quand même insupportable en ce moment et qu'elle va durer au moins jusqu'à la semaine prochaine, peut-être même toute la semaine prochaine.
On devrait atteint les 38-39 degrés à Paris.
Ouais, sans doute lundi est la journée la plus chaude de l'histoire de France.
Mais l'histoire de l'humanité d'ailleurs. Je crois
de
que
l'humanité
même,
tout
je me souviens quand même en 825 avoir particulièrement souffert de la chaleur.
Non, mais exactement, mais vraiment, voilà, vous pouvez vous témoigner. Et justement, là, on se rapproche un peu plus de votre jeunesse, Richard, parce que là, je vais vous plonger en 1964, où Lina avait fait un petit reportage, justement, parce qu'évidemment, la canicule n'a pas été inventée dans les années 2000, hein, évidemment, en 1964.
Je crois que Richard l'a inventé justement en 1921.
Mais c'est pas impossible. Mais en tout cas, en 1964, à Paris précisément, on subissait déjà des fortes températures et des fortes chaleurs, peut-être un peu moins élevées qu'aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de voir comment s'adaptent les Parisiens et surtout comment les journalistes faisaient leurs reportages. Écoutez, c'était il y a 60 ans.
Canicule sur l'Europe. On avait oublié depuis quelques années qu'un mois de juillet puisse être aussi...
Parlait, Richard.
31 degrés sous abri hier à Paris, c'est Carcassonne qui a battu le record avec 35 degrés. C'est un léger vent d'Est venu d'Europe centrale et de la Méditerranée qui nous apporte cette atmosphère tropicale. Les piscines refusent du monde, aussi plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine. À Toulouse, à Printemps, on a manqué de boissons fraîches. Depuis 14 ans, il n'avait pas fait une telle température à cette époque de juillet. Et la météo nous en promet encore pour 48 heures. 28 degrés seulement, 27 à Nice, 33 à Lyon, c'est l'interville de la chaleur. Le ventilateur est à l'honneur. Mais l'éventail garde tout son charme.
Alors, on ne voit pas les images, mais on les imagine.
On les imagine, bien sûr.
Une température qui permet tout de même bien des joies. Des joies sans nombre à rester la tête à l'ombre et les pieds au grand soleil.
C'est quand même, déjà, rien que sur les températures citées, c'est fascinant. C'est-à-dire que le record est à Carcassonne à 35 degrés au milieu du mois de juillet. Alors que, effectivement, là, sur un fin mai, on a eu plus de 40 degrés. Enfin, je crois qu'on a atteint les 40 degrés.
Oui, là, on commence à parler de 43, etc. Surtout à Paris, là, il se passe quelque chose à Paris.
Le problème, évidemment, étant aussi l'adaptation des villes à la chaleur.
Bien sûr.
L'absence d'espace vert, finalement, fait que, et l'absence d'arbres, en général, empêche complètement de protéger, enfin, de mettre de l'ombre, justement, et de mettre de l'air. Cela étant, c'est quelque chose qui doit arriver une fois par an, mais on peut dire du bien d'un socialiste. Le fait qu'Emmanuel Grégoire ait autorisé les baignades dans le canal Saint-Martin, c'est une bonne idée, non ?
Mais est-ce que, honnêtement, autorisé ou pas, est-ce que vous baigneriez
dans le canal Saint-Martin,
honnêtement, non.
Moi, je peux aller me baigner dans la Mayenne, je peux aller me baigner dans des rivières, etc.
Ça, mais la Seine a quand même une histoire particulière.
Mais là, c'est pas la Seine, c'est le canal Saint-Martin.
Oui, mais
c'est un bouillon de culture où les cadavres de rats voisinent avec les bicyclettes électriques jetés par les ivrognes.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment pire?
Quelque chose d'absolument atroce.
Est-ce que c'est vraiment pire
entre les métaux lourds et la peste?
Est-ce que c'est vraiment pire que dans la plupart des fleuves français? J'en suis pas tout à fait.
Oui, mais quand même, Paris, c'est
surtout qu'on a dépensé un milliard quand même pour faire en sorte que le fleuve, que Paris soit baignable. Donc au bout d'un moment, autant que ça serve un petit peu.
On a vu son succès, hein, là, forcément. C'est
oui,
vrai que tout le monde en profite.
Et puis c'est vrai que chaque fois que l'État dépense de l'argent, le résultat est là. Il y a une efficacité maximale de toutes les dépenses étatiques.
Cette idée de me baigner.
Je préfère ça que les bornes à incendie qui sont.
Oui, alors ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Mais bon, l'idée de me baigner, de me cogner le pied contre un vélo rouillé, un vélib rouillé, ça, c'est parce qu'il y en a plein. Il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Je vous invite à regarder sur YouTube des vidéos de pêche à l'aimant et vous seriez très surpris de voir ce qu'on est capable de repêcher encore aujourd'hui. C'est même parfois très inquiétant.
Voilà, et bien merci beaucoup Louis Godière, merci beaucoup Alexandre de Galzin. C'est la fin de cette zone libre, mais c'est aussi, chers auditeurs, le moment de prendre congé de vous sur YouTube et sur X. Vous pouvez continuer à nous écouter par ailleurs. C'est le moment de vous rappeler que vous êtes à 1,5 million et même un peu plus à nous écouter chaque semaine, tout canaux confondus. Vous êtes un peu moins de 20 000 à nous donner et là il y a peut-être une dissonance cognitive, il y a quelque chose qu'on a du mal à s'expliquer. Ce serait sympa d'affurer la thune, quoi, voilà, entre 1 et 5 euros par personne. Voilà, si jamais, entre deux épisodes caniculaires, vous pensez à vous réveiller, à nous donner la pièce, ce serait sympathique. Comment on fait ?
Entre 20 000 et 1,5 million, finalement, il y a pas mal de possibilités.
Mais oui.
Donc, si vous souhaitez nous faire des dons en ligne, rendez-vous sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr. Et puis, merci de nous adresser tous vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Parce qu'on rigole, mais c'est très important de nous soutenir quand même.
Vous avez parfaitement raison, on rigole, mais à côté de ça, on fait de la véritable information, pas comme West France, si je peux me permettre cette pique abominable. Et nous allons justement écoutez Amélie Chély nous parler du peuple iranien et des espérances de ce peuple maintenant que le protocole d'accord a été signé.
Ligne droite. Debout les Français.
Et donc, Debout les Français, c'est avec Amélie Chély, sociologue spécialisée dans l'Iran, iranologue. Bonjour Amélie Chély.
Bonjour.
Alors, l'accord a été signé. On a l'impression qu'il y a plusieurs personnes satisfaites et plusieurs personnes mécontentes. Donc, on ne va pas revenir sur la joie manifestée par Donald Trump, qui est absolument persuadé que cet accord est génial. On va plutôt parler du peuple iranien à qui Donald Trump avait dit le 13 janvier qu'il fallait qu'il continue à manifester et que les Américains allaient être à ses côtés. Voilà, nous sommes fin juin, donc quasiment 6 mois plus tard. Quelle est la situation du peuple iranien maintenant que l'accord est signé ?
Alors, on va rappeler que c'est pas vraiment un accord hein, pour l'instant. Je suis vraiment désolée, j'ai perdu ma voix, vous voyez, pendant la nuit, c'est très bête. C'est pas vraiment un accord, c'est un protocole d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'entendre sur le fait qu'il y ait deux volets principaux, prévalents. Le volet relatif au détroit d'Hormuz d'une part, le volet relatif au nucléaire d'autre part. Et après, on se donne une certaine durée, une soixantaine de jours, pour essayer de regarder détail par détail comment justement chaque point relevant de ces deux volets pourront être traités. Donc rien n'est fait. Mais une chose est sûre, le peuple iranien n'a pas forcément attendu ce protocole d'accord pour être dans le désenchantement. Premier désenchantement, vous y faisiez référence, c'est le moment où Donald Trump disait « L'aide arrive, sortez dans les rues, nous venons vous rejoindre quelque part, faites en sorte que l'intérieur soit chaotique, de sorte que l'extérieur puisse apporter une aide efficace. » Or, aucune aide n'est venue, du moins pas dans l'immédiat, et le temps a été suffisant pour que le régime puisse procéder à des arrestations massives. Donc ça, c'était le premier point. On a eu ensuite beaucoup d'autres points. Je me souviens de deux grandes frayeurs de la population en relation avec la posture américaine. La première, c'était quand il s'était agi d'établir un plan de requête américaine à l'égard de l'Iran. On était encore dans les premiers mois du conflit, le premier mois tout simplement, pas les premiers mois, mais le premier mois. Et les Iraniens avaient très peur finalement que Donald Trump se remette à la solution qu'ils détesteraient eux-mêmes le plus, c'est-à-dire les moujahidines du peuple, d'une part. Et puis ensuite, il y a eu une déclaration de Donald Trump qui, là non plus, n'a pas forcément rassuré le peuple iranien. C'est quand il a dit « J'ai plein d'amis religieux dans le Golfe, je m'entends très très bien avec certaines têtes couronnées wahhabis, donc sous-entendu, je n'aurai absolument aucune difficulté à m'entendre avec un membre du clergé iranien ». Donc là, le peuple iranien a tout de suite compris que la question américaine n'était absolument pas celle du regime change. Bon, de toute façon, je pense que le doute ne s'est jamais véritablement posé, et ça, c'était bien plus une revendication israélienne qu'américaine, et le peuple iranien le savait très bien. Donc je pense que là, plutôt le désespoir est lié au fait que le régime n'est pas tombé. Hein. C'est pas dans les mains des Américains que les Iraniens ont mis leurs espoirs, ou du moins ça n'est pas du fait de ce protocole d'accord que ces espoirs-là ne sont plus permis. Ça fait longtemps qu'ils ont disparu.
Alors, le fait que le régime n'ait pas changé, le fait que le clergé, les gardiens de la révolution, l'ensemble des forces possèdent en fait l'État iranien soient restés en place, est-ce une surprise néanmoins que cet État qui a été décapité, dont les chefs de ces différentes factions ont été décimés par les Israéliens, le fait que cet État réussisse à demeurer, à agir, à conserver son emprise? Est-ce que cela a étonné les Iraniens ou, malgré tout, ils pouvaient s'attendre à ce que, justement, ce régime soit aussi résilient ?
Je pense que ça a étonné les Iraniens qui peuvent avoir des positions politiques proches des néoconservateurs américains, ou du moins de tous ceux qui sont pour un regime change. En règle générale, on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Ça vaut pour les Iraniens et ça vaut pour la Terre entière. Donc, pour ceux qui sont à bout de souffle, et ils sont très nombreux, mais ceux qui, en plus d'être à bout de souffle, étaient pour un changement de régime, et peu importe ce qui viendrait après, tant ils sont à bout de souffle, eh bien évidemment, les espoirs étaient permis. Et ceux-là ont pu être étonnés que le régime fasse preuve de cette résilience. Ensuite, tous ceux qui, évidemment, sont plus dans une défense du régime, la chose n'a pas été étonnante. Et puis ceux qui sont plutôt dans une objectivité presque académique, dans l'observation de la, du système de la République islamique, de son fonctionnement, n'était pas particulièrement étonné non plus. Quand on sait que c'est un système qui est polycentrique et qui peut fonctionner quand bien même certains centres, certaines instances décisionnaires sont décapitées, il y en a quand même au même niveau, très haut niveau, entre 5 et 9. Donc il faudrait vraiment parvenir à en paralyser 9 pour que la République islamique ne fonctionne plus, chose qui est très très compliquée à faire, et on s'en rend compte même avec l'excellence du renseignement israélien, cette chose n'est pas faisable, du moins pas en si peu de temps et pas de façon létale. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir des infiltrations sur le très très long terme à l'intérieur de chacune de ces entités pour que un tel projet puisse réussir. Donc cet étonnement, vous voyez, il n'est pas uniforme. Évidemment, ceux qui avaient nourri des espoirs sont extrêmement déçus aujourd'hui, d'autant plus déçus que la République islamique n'a pas fait que se maintenir. Le système, on peut dire qu'il s'est même renforcé, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas eu de transformation de la base idéologique, on est toujours dans une idéologie qui s'appelle le Velayat Efari, qui veut dire la tutelle du juriste théologien, et dans ce système vous avez toujours donc le clergé qui est supposément décisionnaire, et à côté du clergé vous avez une sorte de surmoi psychanalytique de la République islamique, ce sont les gardiens de la révolution. Ces deux entités ont toujours existé, il se passe juste qu'à présent, de façon provisoire ou peut-être non provisoire, l'avenir nous le dira, ce sont les gardiens de la révolution qui ont pris plus de pouvoir sans totalement évincer le clergé.
Alors, justement, cette irruption des gardiens de la Révolution sur le devant de la scène, cette prise de pouvoir, pour reprendre vos mots, est-ce un étonnement dans la conduite de la guerre, le fait que le clergé se soit mis en retrait ou ait été contraint au retrait, notamment par le fait que ses dirigeants aient été décimés, ou est-ce que ça annonce un véritable changement intérieur de régime?
Alors, c'est pas un véritable changement au sens de révolution, puisque dans la révolution, vous avez un changement de mécanisme et d'entité fondamentale. Or, ça n'est pas le cas. Pour ce qui concerne la surprise, ça n'est pas non plus le cas. D'ailleurs, assez régulièrement, quand il y a soit des problèmes diplomatiques, soit des problèmes de politique interne, la question se pose, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un renversement opéré par les gardiens de la révolution? Parce que, en règle générale, qui prend le pouvoir? C'est ceux qui ont les armes. En Iran, vous avez deux entités qui ont les armes. Vous avez l'armée régulière et vous avez les gardiens de la révolution. Donc, soit on envisage la possibilité d'une transformation et ce n'est pas forcément du côté des gardiens qu'on va chercher, puisque comme nous le disions, ils sont le surmoi idéologique de la République islamique. Soit vous pencher du côté des gardiens. Or, les gardiens ne seraient pas forcément là pour opérer une révolution à proprement parler, mais bien plutôt pour opérer un renforcement de l'actuel régime. Donc, la chose n'est pas si étonnante que cela, d'autant plus que les observateurs le savent, et d'ailleurs, au ministère des Armées françaises, quand il y a des études qui sont demandées sur l'Iran, elle se concentre très largement sur la question des gardiens de la Révolution. À chaque fois que j'ai pu être sollicitée par la Grande Muette, comme on dit, c'est exclusivement sur la question des gardiens de la Révolution. Donc l'étonnement n'est pas très fort, d'autant qu'on sait que depuis pas mal de décennies, non seulement cette force armée est parallèle à l'armée régulière, mais en plus, elle a étendu ses champs d'influence bien au-delà de ceux qu'une armée traditionnelle est supposée maîtriser. On ne reste pas exclusivement sur terre, mer, cieux. On va devenir propriétaire foncier, on va maîtriser la chirurgie oculaire, on va être propriétaire d'un grand nombre de produits pharmaceutiques, on va être douanier de sorte à pouvoir percevoir des sommes sur les exportations et sur les importations, etc., etc.
Donc effectivement, il y a toujours cette espèce d'enchevêtrement d'intérêts privés et publics en Iran qui étonne un peu. Lorsque, en janvier, il y a eu ces manifestations, il y a eu aussi une répression incroyable, l'État iranien avait admis à un moment donné qu'il y a eu 3117 morts, en expliquant d'ailleurs qu'une partie de ces morts étaient aussi les forces de l'ordre. D'autres chiffres ont été avancés, 30 000. Vous nous aviez parlé de vos amis qui, sur les boucles Telegram, avaient avait appelé à manifester et avait disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, est-ce qu'on en sait plus sur les morts de janvier 2026, de décembre 2025, janvier 2026? Et est-ce que c'est un épisode qui est passé par pertes et profits par la population et par le pouvoir?
En fait, ça va surtout être une obligation. C'est-à-dire que la population n'a pas d'autre choix que de ne pas s'arrêter à cet événement et d'en faire finalement un événement comme tous ceux qui ont jalonné tristement l'histoire de la République islamique depuis, je ne sais pas, je pense aux manifestations de 99 réprimées dans le sang qui a transformé les villes en une sorte de cimetière à ciel ouvert, puisque vous aviez des pendus aux grues. C'était surtout comme cela que les mises à mort étaient faites. Vous avez eu ensuite les manifestations de 2009 qui ont été historiques, surtout du point de vue des médias français, parce que les médias occidentaux, je veux dire, c'était vraiment emparés de l'affaire, parce que là, il y avait vraiment une perspective révolutionnaire au sens propre du terme. C'est à ce moment-là que nous entendions les premiers slogans qui attaquaient directement la République islamique et non pas un certain nombre de pendant qui lui était coextensif. Ensuite, on a eu toutes les vagues protestataires que nous connaissons jusqu'au mouvement Femmes, Vie, Liberté et le dernier en date, très sévèrement réprimé. Donc, ils n'ont pas trop de choix, les Iraniens, que d'envisager ces répressions-là comme faisant partie de l'histoire de la répression de la République islamique. Et en même temps, pour ceux qui sont pour un changement de régime, et ils sont nombreux, eh bien, on peut envisager ça. Je crois que l'image avait été employée par un chercheur iranien comme autant de contractions avant un accouchement. Plus elles sont fortes, plus la délivrance est envisageable.
Alors, mais merci d'ouvrir un peu sur un certain espoir. Vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs catégories de population, celles qui avaient désespérément envie d'y croire, celles qui n'avaient aucun intérêt à ce changement de régime, et au milieu donc une population qui essaie d'être objective et de se dire voilà, il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses dont on peut rêver. Malgré tout, la relative ouverture que ce protocole d'accord laisse dessiner, le fait que les sanctions vont être levées, le fait que l'Iran soit moins isolé et en tout cas aspire à moins l'être, est-ce que ce n'est pas aussi un espoir à terme pour le peuple iranien ?
Oui, ça avait été assez assez étonnant, et ça ne date pas du protocole d'accord, hein. Ça commençait déjà quelques semaines auparavant, c'est-à-dire que ces mêmes Iraniens qui comptaient sur la guerre pour éventuellement assister à un changement de régime, ou du moins un affaiblissement du régime tel que ça allait forcer l'actuel régime à adoucir son comportement, eh bien ceux-là même se disaient qu'en fait, finalement, la question du détroit d'Hormuz avait été un tel coup de force de la part de la République islamique en tenant en otage l'économie mondiale, que cela allait au moins pouvoir permettre de négocier des levées de sanctions. Donc déjà, il y a quelques semaines, on observait dans la population, même la plus réfractaire à l'actuel système, cet espoir-là, on essaie de se rabattre sur ce qu'on peut. Maintenant, pour ceux qui sont les plus lucides, on peut aussi partir du principe que des accords encadrant le nucléaire ont déjà existé, que la contrepartie iranienne a déjà été observée comme étant respectée par l'AIEA à chaque fois que l'AIEA se penchait, comme les accords le demandaient, sur l'état de développement du nucléaire iranien, et que malgré tout, la table a été renversée, et que même avant que la table ne fût renversée, eh bien, il y avait des retranspositions de sanctions, non pas liées au nucléaire, puisque la question du nucléaire était respectée côté iranien, du moins du point de vue de l'AIEA, simplement, on en transposait d'autres relatives à la fameuse triade aide à des groupes figurant sur la liste des organisations terroristes, développement du programme de missiles balistiques et absence de respect des droits de l'homme. Donc les Iraniens les plus lucides sont un petit peu dubitatifs, pas très confiants quant à la perspective de levée de sanctions, parce qu'ils savent que déjà la chose a pu avoir lieu et ne s'est pas véritablement faite.
Eh bien, merci beaucoup Amélie Chély pour ce point sur les espoirs et les attentes de la population iranienne. Merci et très bonne journée.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Eh bien, chers amis, c'est presque fini, mais il y aura encore un rappel de l'actualité. On vous l'a dit à plusieurs reprises, Radio Courtoisie est une radio libre. Radio Courtoisie est une radio libre d'expression, libre de subvention, libre de publicité. En fait, nous n'avons qu'une dépendance, c'est la dépendance à vous, chers auditeurs. Donc, pour nourrir cette dépendance, eh bien... Donnez-nous notre dose, s'il vous plaît, et donc soutenez Radio Courtoisie. Vous en avez besoin pour que vos idées soient exprimées.
Comme vient de vous l'expliquer Richard, votre générosité est la garantie de notre indépendance. Alors, pour nous faire des dons en ligne, je vous invite à vous rendre sur cette adresse soutenir.rc.fr. Et puis, pour nous adresser vos chèques, ça se passe par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Juste après la matinale, les émissions de Radio Courtoisie continuent avec un programme riche jusqu'au cœur de la nuit et par exemple Arnaud.
Dans un instant à 10h, promenade des Flandrées au domaine de poésie dirigé par Pascal Payen-Appenzeller. À midi, en direct, le livre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis consacré à l'essor de l'Asie et au renouveau des États-nations, des peuples et des civilisations. Un décryptage avec Hervé Juvin en s'appuyant sur les thèmes de son livre « Chez nous !» et pour en finir avec une économie totalitaire. À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon avec la 8e et dernière partie de Marie-Josette Liégeois. Restons courtois, ce sera en direct avec Marc Baudrier ce soir à 17h30. France-Algérie, retrouver l'histoire face à la mythologie anti-française avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et auteur de l'Algérie 1830-1826. 2026, pardon. Vérités et légendes. 19h30, le libre journal de Philippe Pichot-Bravard, une conversation littéraire autour de l'actualité éditoriale. Et puis à 21h30, prolongation, dirigée en direct par Stanislas Rigaud. Et nous terminons avec Patrick Banken et Chant Grégorien, consacré cette semaine au quatrième dimanche après la Pentecôte.
Merci beaucoup Arnaud, et nous ne vous disons pas à demain, mais nous vous disons à lundi, car demain c'est samedi.
À lundi.